Au Mexique, l'élimination d'un baron de la drogue a provoqué des affrontements sanglants entre les forces de sécurité du pays et les hommes du cartel Nouvelle Génération, qui était dirigé par El Mencho, qui a été donc abattu par la police. C'était dimanche. À quelques mois d'accueillir la Coupe du Monde de football, le chaos prévaut dans les rues du Mexique et de Mexico. Pour en parler, Alain De Staeckx était notre invité hier soir, celui de Jonathan Serrero, Alain De Staeckx, sénateur honoraire belge, et il répondait donc aux questions de Jo.
Alain De Staeckx, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'ai une première question. Est-ce qu'on peut dire que cette élimination de ce baron de la drogue est l'une des conséquences de l'arrestation du président Maduro par les forces spéciales américaines? C'était au mois de janvier dernier.
Non, je ne crois pas. C'est plutôt une conséquence de la pression de l'administration Trump sur le gouvernement mexicain, qui est un gouvernement dominé par la gauche. La présidente est une femme de gauche. Et l'administration Trump en avait assez de ce qu'il voyait comme une certaine inertie du gouvernement mexicain dans la lutte contre la drogue. Donc moi, je vois ça essentiellement comme une manœuvre du Mexique pour coopérer davantage avec les États-Unis et en quelque sorte faire plaisir au président Trump parce que les contentieux entre le Mexique et les États-Unis sont nombreux.
Alors, au-delà de l'élimination de ce El Mencho, de ce baron de la drogue, c'est la violence des affrontements qui nous impressionne et qui oppose les hommes du cartel avec l'armée mexicaine et des hommes des forces spéciales mexicaines aussi. Comment les autorités mexicaines ont laissé s'armer ces organisations criminelles qui sont devenues aujourd'hui de véritables armées?
Vous savez, ça remonte à assez longtemps, hein. Et aujourd'hui, le Mexique peut être considéré comme un quasi narco-État. On peut dire qu'ils ont essayé différentes stratégies. Ils ont essayé les guerres ouvertes par l'élimination des leaders. Puis après, il y a un président, López Obrador, qui est le prédécesseur de la présidente actuelle, Madame Sheinbaum, qui a essayé une autre stratégie qu'il appelait en espagnol Abrazos no balanzas, les bras ouverts et pas les balles. C'est-à-dire, il voulait s'attaquer aux racines du problème avec une politique plus sociale pour essayer de développer les communautés. Ben, ça n'a pas vraiment marché non plus. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a un tiers du territoire mexicain qui est sous le contrôle des narcos. Et puis, le problème, c'est que ces narcos sont infiltrés au plus haut niveau de l'État mexicain, alors peut-être pas au niveau de la présidente, mais dans son parti qui s'appelle Morena, il y a des liens assez notables. Alors précisément, et c'est là où il faut peut-être pas s'emballer trop vite, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cartels au Mexique. Celui qui a été visé, qui est visé pour le moment, c'est le CJNG, mais il y a d'autres cartels, notamment celui de Sinaloa, qui est réputé beaucoup plus proche du parti de la présidente, et lui qui n'est pas visé pour le moment. Et en fait, si le Mexique veut vraiment en finir un jour avec le narcotrafic, bien sûr, ces opérations comme celle d'hier sont utiles, mais il faut véritablement démanteler les liens entre le narcotrafic et l'État mexicain. Et c'est là où le bât blesse aujourd'hui, car ces liens, finalement, sont assez nombreux.
Est-ce qu'on pourrait assister à ce genre de scène de chaos dans les grandes villes européennes? On sait que le narcotrafic prospère notamment à Bruxelles, à Marseille, ou encore à Amsterdam, ou encore Rotterdam, aux Pays-Bas.
Alors, on n'en est pas là, mais on est quand même dans une course contre la montre entre le narcotrafic et les États. Et finalement, c'est pas trop qui va gagner cette course parce que les États réagissent, mais on voit bien que la situation se dégrade d'année en année malgré l'action de l'État. Donc, à Bruxelles, par exemple, il y a encore quelques années, il n'y avait pas ce phénomène des fusillades. Aujourd'hui, on est à 90 fusillades par an. L'immense majorité, presque 90%, est liée au narcotrafic. C'est un phénomène nouveau qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans à peine. Anvers a saisi davantage de cocaïne l'année dernière que l'ensemble de la France. Et la France est pourtant relativement active dans ce domaine. À Anvers, il y a 200 conteneurs qui sont scannés tous les jours. Donc, alors 200, ce n'est qu'une petite partie des conteneurs. Donc, on voit bien que c'est d'une sorte de course contre la montre. Et malgré la réaction des États, par exemple à Bruxelles, Le procureur de Bruxelles fait tout ce qu'il peut, mais il le fait à un certain prix aussi. Il est sous protection policière, il est menacé. Moi, je crois qu'on n'est pas encore dans des situations de narco-État, mais on est dans des situations où des villes deviennent des narco-cités. Bruxelles, Anvers et Marseille, où des quartiers, finalement, échappent à l'autorité de l'État, en dehors de la présence sporadique de la police, mais au jour le jour, c'est le narcotrafic et d'autres mouvements extrémistes, parfois les islamistes aussi, qui contrôlent en réalité ces quartiers. Donc on n'en est pas encore au narco-État, mais la bataille se poursuit, elle est loin d'être gagnée.
On sait aussi que les narcotrafiquants flirtent avec les organisations terroristes, notamment de la région du Moyen-Orient, notamment le Hezbollah. Lorsque Donald Trump choisit de s'en prendre au Venezuela et à son régime, est-ce une première étape dans la guerre que souhaite mener le chef d'État américain contre la République islamique, le grand argentier qui se cache derrière notamment l'ancien président Maduro?
Alors honnêtement, je n'en sais rien. Bien, il est clair que le président Maduro et son régime, qui est toujours en place, avaient des liens avec la République islamique d'Iran, c'est établi. Mais à quel point est-ce qu'il y avait des circuits et des aides financières, franchement, je n'en sais rien. Non, le président Trump considère à juste titre que la drogue est un fléau absolument abominable pour les États-Unis et a décidé, contrairement à son prédécesseur, de s'y attaquer sérieusement. Et donc il s'y attaque au Venezuela en enlevant Maduro, il s'y attaque en Colombie en faisant des pressions très fortes contre le président Petro, qui est aussi un homme de gauche et qui finalement a plutôt régressé dans la lutte contre le narcotrafic. Et puis le point noir, le point central pour les États-Unis, c'est évidemment le Mexique avec lequel il est frontalier. Et là, l'infiltration du narcotrafic dans l'État est tellement profonde que on ne voit pas de solution immédiate. Et pour me répéter, je ne crois pas que la solution, même s'il faut le faire, constitue dans les opérations contre celle-ci. Elle consiste plutôt dans une opération main propre, comme ça s'est fait en Italie, mais visant les structures de l'État et à démanteler l'infiltration de la pègre dans les structures de l'État. Parce qu'on le voit aujourd'hui, on a des affrontements à coups de tanks, hein, à coups de chars, à coups de lance-roquettes entre les forces armées et le gang qui est visé. Mais ce n'est qu'un gang qui a été visé, hein. D'autres sont bien, bien peinards pour le moment et restent au balcon.
L'Index, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci.